9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Plus des deux tiers des nappes phréatiques en France restent en dessous des niveaux de remplissage habituels. On s'attend à un été particulièrement sec. Esther Crozet-Delbourg, économiste spécialisée dans les problèmes de ressources en eau, est ma première invitée ce matin. Je recevrai ensuite le géopolitologue Frédéric Ancel, l'auteur de Petites leçons de diplomatie, pour qu'il nous explique le changement de discours de Vladimir Poutine à propos des drones qui sont arrivés jusqu'à Moscou, ou pourquoi Emmanuel Macron est le premier chef d'État français à s'être rendu en Mongolie. Et l'on finira l'émission avec Loïc Bollache qui publie « Quand les animaux font la guerre ». Et oui, il faut en finir avec l'idée que la guerre est une invention des hommes. Les animaux passent leur temps à la préparer et à la faire. Esther Crozet-Delbourg, bonjour.
Bonjour.
Chaque fois qu'il y a un problème d'eau, c'est vous que j'appelle. Et là, il y en a un peu partout en France. À quoi faut-il s'attendre pour l'été ?
Alors pour l'été, comme on en a déjà discuté, on sait que les nappes phréatiques n'ont pas eu le temps de se recharger depuis cet hiver. Nous avons eu un hiver beaucoup plus court, avec un déficit pluviométrique important. Aujourd'hui, près de 70% des nappes en France sont en dessous de la moyenne, avec quelques départements qui sont en alerte de crise. Donc on sait que pour l'instant, notamment dans le sud de la France, ces départements n'ont pas eu le temps de récupérer toute la pluie nécessaire pour que l'été se passe dans des bonnes conditions. Donc aujourd'hui, on est face à des restrictions qui a priori vont s'empirer. On sait que les communes où il y a des problèmes d'approvisionnement en eau potable, a priori vont continuer à en avoir. Et donc il va falloir avoir un arbitrage sur les usages. Potentiellement, le tourisme va en pâtir cet été. Si vous allez dans le sud, il faut s'attendre à avoir un comportement plus responsable et potentiellement quelques endroits dans les campings ou dans les hôtels où les conditions hydrologiques, les piscines, les loisirs seront transformées.
En effet, un arrêté préfectoral interdit d'ores et déjà de rajouter de l'eau dans les piscines privées, dans les Pyrénées-Orientales, au grand dam des campings hein, qui sont nombreux. Et la vente de piscines hors sol y est également interdite.
Absolument, il y a des mesures assez strictes qui ont été prises. Alors, on ne peut plus acheter de piscines hors sol, mais évidemment, il reste des piscines existantes. Et puis, les piscines souterraines, creusées dans la terre, peuvent continuer d'être construites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en été, on a quand même besoin d'aller trouver cette fraîcheur. Aujourd'hui, avec les canicules et les températures de plus en plus élevées, on ne peut pas considérer cela comme normal de ne plus avoir d'espace public ou privé où on peut se rafraîchir. Donc, il faut trouver des solutions. Et ces solutions, en général, elles sont quand même assez faciles à trouver et pas extrêmement chères, notamment sur les piscines. Il faut absolument apprendre à limiter l'évaporation de l'eau. Ça nous permet en recouvrant d'une bâche les piscines, on peut gagner jusqu'à 20 ou 30% d'évaporation qui aurait eu lieu sinon. Il faut aussi limiter les traitements, laver de plus en plus sa piscine de façon à ce que ce ne soit pas sale, de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de renouveler l'eau souvent. Il y a plein de choses qui font qu'on peut potentiellement quand même sauver nos piscines cet été.
Tout le monde commence à s'inquiéter. Hein. Les Français qui croyaient n'avoir jamais de problème d'eau s'y retrouvent confrontés. Alors qu'est-ce que ça provoque ? Qu'est-ce que vous avez déjà remarqué, vous ?
Alors, on a remarqué déjà effectivement un changement sur les comportements, sur ce qu'on considère comme étant acceptable. Ce qu'on a vu sur le CO2, par exemple, sur le fait de prendre l'avion, sur les jets privés. Maintenant, la même réflexion est en train de se transposer sur l'eau, à savoir quels sont les usages acceptables. Évidemment, c'est ce qu'on appelle vraiment une tension à conflit de l'eau. Est-ce que j'ai droit d'irriguer mes fraises ou est-ce que j'ai droit d'irriguer mon maïs semence quand une commune à côté ou à quelques kilomètres de là n'a plus accès à assez d'eau potable ? Ça, c'est un premier problème. Ensuite, on se retrouve sur le sujet privé, on a parlé des piscines, qui est comment est-ce qu'on s'approprie ou non des ressources quand elles viennent à manquer. Donc toutes ces questions-là, elles arrivent. De grandes enseignes, de grandes distributions commencent à se poser la question de savoir s'il faut arrêter de vendre tel ou tel produit. Il n'y a pas que les piscines, il y a les baignoires, il y a les spas. Donc effectivement, il y a une transformation culturelle aussi bien chez les particuliers, chez vous et moi, que dans les grandes entreprises pour se dire comment est-ce que maintenant je peux transformer mes usages de l'eau. Et ça, c'est très fort.
Vous l'avez dit la dernière fois que je vous ai interviewé dans cette émission, on ne recycle pas nos eaux usées en France. Est-ce que c'est en train de changer ?
Parmi toutes les possibilités, toutes les solutions pour arriver à plus de sobriété et plus d'intelligence dans l'eau, il y a évidemment le fait de récupérer les eaux usées. Comme on le sait, une eau usée, c'est une eau qui a été utilisée, qui est grise, qui est sale et qu'il faut nettoyer par une station d'épuration. Aujourd'hui, on n'utilise que 1% de notre potentiel, c'est-à-dire que de toute l'eau qui ressort propre, 99% de cette eau revient dans le système naturel. Comme on l'a dit, effectivement, on pourrait augmenter ce potentiel et monter jusqu'à au moins 20 ou 30% comme le font nos voisins en Espagne, en Italie. attention, on ne peut pas monter jusqu'à 100% parce qu'il faut absolument qu'une grande partie de cette eau revienne dans le milieu naturel. Typiquement, on en avait déjà parlé, la Seine ou le Rhône ont besoin de cette eau pour exister. Si on leur enlevait tout ça, le débit de ces fleuves serait diminué. Ça, c'est pour les eaux usées. Et évidemment, il y a cette idée de l'eau de pluie. Il faut absolument qu'on sache récupérer l'eau de pluie. Alors, aussi bien pour nos usages privés, la vente des récupérateurs d'eau de pluie a augmenté, je crois, de 300% en février, en début d'année, dans la plupart des grandes enseignes. Donc, ça veut dire qu'on commence à l'utiliser. Mais c'est aussi savoir recapter l'eau de pluie dans les villes. Les villes sont très bétonnées, sont artificialisées. Alors que si on avait plus d'espace vert, eh ben, cette eau, elle s'infiltrerait dans les gazons, dans les arbres. Et puis après, elle diffuserait cette fraîcheur parce que le gazon évaporerait de l'eau et donc on retrouverait cette fraîcheur en ville grâce à l'eau de pluie.
Vous parlez de la Seine et du Rhône, mais le débit des cours d'eau est inquiétant un peu partout en France en ce moment, non ?
Oui, le débit des cours d'eau a beaucoup baissé. Il y a une grande étude qui est sortie dernièrement sur les lacs, où 50% des lacs du monde, et c'est à peu près la même moyenne pour la France, auraient baissé drastiquement dans les 30 dernières années. En fait, nos cours d'eau, nos rivières, nos lacs sont alimentés par plusieurs choses. Déjà, la fonte des neiges. On sait qu'il neige moins parce que nous avons des hivers plus courts et plus doux, donc on ne bénéficie pas de cet apport-là. Ensuite, on prélève toujours de plus en plus d'eau, donc évidemment, c'est toujours moins d'eau qui revient dans nos nappes. Et puis, l'augmentation des températures fait que l'eau s'évapore beaucoup plus rapidement que prévu, donc forcément, ça fait moins d'eau et donc moins de débit. C'est grave parce que, bon, déjà, un, ça limite la quantité d'eau disponible. Ça a un énorme impact, évidemment, sur les ressources halieutiques et sur la biodiversité. On sait que dans le sud de la France, on a dû aller chercher les poissons un à un dans certains lacs pour les transporter parce que le niveau des lacs était tellement bas qu'ils allaient tous en périr. Donc oui, le débit est une métrique très importante à regarder et en général, elle est signe d'affolement puisque quand on peut traverser la Loire comme on l'a fait l'année dernière ou quand on voit le lac de Serpenson qui est pratiquement vide, c'est une expression très forte en fait de la crise qu'on traverse.
Esther Crozet-Delbourg, c'est vous qui nous avez alerté sur les fuites dans notre système de canalisation. Je parle dans cette émission, tout du moins. On perd environ 20% de l'eau potable qui circule. 1 litre sur 5, ce qui est absolument considérable. Est-ce que là aussi, du fait qu'on est tous en train de prendre conscience progressivement et qu'on s'attend à un été particulièrement sec, est-ce qu'il y a déjà des initiatives dans ce domaine ?
Alors sur les fuites, le problème est à la fois simple et compliqué. Il est simple parce qu'une fuite d'eau, ça peut être visible, vous pouvez l'entendre, et donc il s'agit de les repérer très vite. On sait qu'un robinet qui fuit, c'est à peu près 5 litres perdus par semaine, en fonction de votre débit, si vous avez un mousseur d'eau ou autre, donc c'est énorme. Donc il faut absolument les réparer. Simplement, on a perdu confiance un petit peu dans notre système de réparation, on a souvent peur de réparer nous-mêmes, donc on se sent un peu impuissant face à la fuite. Ça, c'est pour la fuite domestique, la petite fuite. Et évidemment, après, il y a le problème de nos gros réseaux, nos canalisations urbaines qui sont, elles, complètement invisibles, complètement cachées et qu'il est très coûteux d'aller regarder, d'aller revisiter. Ce que les fuites ont mis en avant, c'est le fait qu'on avait tous le pouvoir de faire beaucoup, par exemple, dans la maison. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est possible, grâce à beaucoup de petits gestes, de diminuer notre consommation quotidienne. À la maison, on en a déjà parlé, mais effectivement, réduire d'une minute, par exemple, le temps d'une douche, c'est énorme sur la consommation. Une douche, si vous avez une douche sobre, vous consommez à peu près, le pommeau va sortir à peu près 9 litres d'eau par minute. Ça, c'est pour un pommeau vraiment performant. En général, vous êtes plutôt autour de 10-15. Bon, bah, si vous réduisez votre douche d'une minute, vous avez économisé 10 à 15 litres d'eau, ce qui est déjà énorme sur votre consommation quotidienne de 150 litres. Donc vous voyez que les gestes en fait sont très faciles, peu coûteux et ne nous empêchent pas de bien vivre.
Mais là, on parle des individus. Au niveau des entreprises, par exemple, il y a des prises de conscience ?
Oui, alors comme vous le dites, effectivement, les entreprises agricoles et industrielles représentent 80% de notre consommation de l'eau, entre 70 et 80%. Donc c'est évidemment là qu'il y a le plus d'impact. Dans le plan eau du gouvernement, ils sont cités, ils doivent faire un effort, mais pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité ou de détails sur quel type d'effort ils vont devoir faire, qui sont les entreprises qui vont devoir le faire et comment est-ce qu'on va contrôler voire sanctionner ces agissements. Donc c'est important que rapidement, en fait, on puisse avoir une idée, un, de la consommation de ces grandes entreprises, parce que c'est une métrique pour l'instant qu'on n'a pas. On ne mesure pas l'eau qu'on utilise chaque jour pour la consommation économique. Et deux, il faut qu'on puisse savoir quels sont les engagements que ces entreprises vont prendre. Beaucoup ne savent pas encore, en fait, comment prendre ces engagements. Et donc c'est là tout l'enjeu du gouvernement, c'est de les aider à savoir comment s'y prendre.
L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à passer l'été. On risque de se retrouver confronté à quoi ?
Alors, on passera l'été, simplement on passera l'été avec de grandes inégalités qui existent déjà. Dans le sud de la France, il y aura des communes qui manqueront d'eau et qui en manqueront toujours cet été, toujours plus. Donc cela veut dire que si vous allez passer des vacances dans le sud cet été, il faudra changer vos comportements. À l'inverse, on pense que la Bretagne et le Grand Est seront relativement épargnés. Donc on va peut-être voir une translation des mouvements touristiques vers ces régions qui sont plus fraîches, où il y aura moins de contraintes. On n'a pas encore vu d'exemples d'hôtels qui doivent fermer. Par contre, on a vu notamment un gros projet dans le sud de la France hôtelier qui a été interrompu et interdit par manque d'eau. Donc on peut s'attendre en fait à ce qu'il y ait une transformation économique du paysage, une transformation touristique. On aura chaud cet été, d'ailleurs on commence déjà à avoir chaud dans une grande partie de la France. Donc il faut aller chercher ces coins de fraîcheur de façon intelligente, près des lacs, près des rivières, près des endroits qui existent, en faisant évidemment attention à ne pas trop polluer, parce qu'on sait très bien que la consommation touristique, la pollution qui vient avec le loisir, potentiellement peut commencer à polluer ces dernières sources d'eau qui nous restent pour se rafraîchir cet été.
Et à la rentrée, il faudra déjà préparer l'été suivant.
Oui, absolument, il faut qu'on s'y mette. Alors, il faut qu'on s'y mette dès maintenant pour commencer à préparer. Et cet été-là sera un petit peu un test, l'été zéro qui va nous permettre de voir ce qu'on est capable de faire. On sait que ça ne va pas changer. C'est tout à fait possible que dans un an, nous ayons exactement la même conversation. Alors, on espère plus intelligente, plus fournie en données parce qu'on aura fait des progrès. Mais on peut s'attendre à des hivers toujours plus doux et plus courts, donc des temps de recharge des nappes phréatiques toujours plus courts, et des étés plus longs. On sait que les canicules qui autrefois n'étaient observées que pendant le mois d'août, maintenant s'élargissent. On les voit en juillet, on les voit même pratiquement en mars-avril, ces fameuses canicules de printemps. Elles ne touchent pas que nous, elles touchent aussi nos voisins, la France, l'Italie. Donc on sait que l'année prochaine, nous aurons le même problème. Donc maintenant, tous les projets que vous avez, qu'ils soient de vacances ou à la maison, doivent être envisagés en se disant comment je peux faire pour intégrer l'eau de façon intelligente et ne pas venir à manquer si jamais vraiment nous avions une grave crise de pénurie l'année prochaine.
Merci Esther Crozet-Delbourg.
Merci.
On fait une pause, on se retrouve tout de suite après avec Frédéric Ancel.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue et vous publiez « Petite leçon de diplomatie » aux éditions Autrement. C'est sous-titré « Ruses et stratagèmes des grandes ce monde à l'usage de tous ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer le comportement plutôt surprenant de Vladimir Poutine après que Moscou a été attaqué par des drones, ce qui montre la fragilité des défenses russes, et Poutine qui déclare que l'Ukraine cherche à terrifier la Russie, à intimider les citoyens russes. On l'aurait plutôt imaginé en train de bomber le torse.
Oui, c'est juste. Alors écoutez, il y a deux manières, en temps de guerre en tout cas, de développer sa propagande. Le premier type de propagande, c'est la triomphaliste. C'est-à-dire, comme vous l'avez bien dit, on bombe le torse, on raconte à ses citoyens que tout est sous contrôle, que de toute façon en face, on ment systématiquement et que ça y est, on est prêt d'atteindre le but et l'objectif bien évidemment assigné. C'est pas ce qu'a choisi Vladimir Poutine, et notamment pas après les 2-3 premiers mois beaucoup plus difficiles que ce qu'il avait bien évidemment imaginé, et à partir a fortiori des premières retraites. Lui a choisi le deuxième type de propagande, qui est une propagande victimiste. Regardez à quel point c'est difficile. Oui, mais pourquoi ? Parce que l'intégralité de l'OTAN est contre nous. Or, l'OTAN, c'est la principale alliance militaire au monde. D'ailleurs, nous avons vu sur le sol ukrainien des soldats noirs. Ça signifie bien que ce sont des Américains. Et ils essayent maintenant de nous terroriser jusqu'au cœur de notre système. Donc, vous, citoyens russes, défendez-moi. Je reste là parmi vous. Et nous nous battrons jusqu'à la mort. Fondamentalement, c'est ce qui a été choisi. Et ça permet quand même, alors il y a un avantage, ça permet à Poutine de ne pas paraître trop ridicule face à sa population et au contraire d'incarner le cœur de la résistance. Après, il y a un inconvénient. C'est tout de même le risque de l'humiliation. Hein. Si on arrivait à une situation militaire qui manifestement, voire sécuritaire au sein de la Fédération de Russie, qui manifestement le mettait en porte-à-faux par rapport à tout ce qu'on peut savoir d'un grand pays, en tout cas d'une grande armée, là effectivement il risquerait de chuter.
Et le rapprochement de l'Arabie Saoudite avec l'Iran, comment l'analysez-vous ?
Alors moi je pense que c'est un rapprochement voulu quasi exclusivement par l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que voilà un pays qui en 2015 a tenté de la jouer un petit peu à l'israélienne vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire de jouer le gendarme, de jouer le pays qui pouvait très bien sur le plan militaire aussi utiliser les armes stratégiques américaines. Or, notamment au Yémen, ça a été un fiasco totale. Et plusieurs milliers d'engins se sont abattus sur le sol saoudien. Ça a coûté des hommes, ça a coûté de l'argent, ça coûte de la crédibilité. Surtout lorsqu'on sait que ceux qui ont propulsé ces missiles et attaqué le sol saoudien, ce sont des va-nu-pieds. Ce sont les Houssis qui sont des rebelles soutenus par l'Iran. Et c'est là que je veux en venir. Autrement dit, pour Riyad, l'intérêt, c'était de stopper cette espèce de mini-Vietnam, en quelque sorte, pour pouvoir développer ce que développe aujourd'hui l'Arabie saoudite, à savoir un pôle ou un hub touristique très important, l'après-pétrole, etc. Bon, tout ce qu'on veut. Et pour cela, il fallait que l'Iran cesse de soutenir cette rébellion. Et je pense qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on dit un peu rapidement ou paresseusement beaucoup d'observateurs, il ne s'agit pas d'une nouvelle alliance. Il s'agit simplement du retour des ambassadeurs croisés, à des drapeaux dans des ambassades pour l'instant à moitié vides. C'est quand même pas une véritable révolution. Mais je pense que les Saoudiens en avaient beaucoup plus besoin que les Iraniens.
Et ça ne contrarie pas les Israéliens ?
Alors écoutez, Netanyahou, lui, n'a jamais cessé ces dernières années d'affirmer que dans le cadre des accords d'Abraham, signés il y a 3 ans et demi par 4 pays arabes et avec Israël, des accords de reconnaissance, dont le Maroc, il n'a jamais cessé d'affirmer que la cerise sur le gâteau, le point d'orgue à ces accords d'Abraham réussis par lui-même, ce qui n'est pas faux, ce serait l'Arabie saoudite, le gros morceau, le plat de résistance. Et j'ai toujours considéré qu'il s'avançait beaucoup, notamment pour des raisons électoralistes, parce que les Saoudiens, ils ont intérêt à obtenir des renseignements d'Israël, ce qu'ils obtiennent vraisemblablement, peut-être aussi des touristes, mais certainement pas de l'autre côté à s'attirer les foudres des plus violents parmi les salafistes qui verraient d'un très mauvais œil un drapeau israélien planté à Riyad. Donc pour l'instant, les Saoudiens n'ont jamais donné suite aux promesses israéliennes, enfin faites par Netanyahou à son propre peuple. Donc moi je ne crois pas que cette réactivation des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran est un rapport direct avec Israël. J'ajoute un point, si vous permettez, c'est que si il devait y avoir une confrontation directe entre Israël et l'Iran à cause du dossier nucléaire iranien, de toute façon, avec ou sans reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite, et avec ou sans ce retour diplomatique entre Riyad et Téhéran, je veux dire que les Israéliens, ils le feront. Donc ils n'ont pas besoin de toute façon de l'accord des Saoudiens.
Et la réintégration de la Syrie de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe, dont elle avait été exclue en 2011, il y a 12 ans maintenant, au début de la guerre civile. Dans vos petites leçons de diplomatie, Frédéric Ancel, comment pouvez-vous nous l'expliquer ?
Je l'explique douloureusement. Là, vous adressez un géopolitologue qui se fait fort d'être un humaniste. Je pense que le retour d'Assad dans le giron de la Ligue arabe, et peut-être et sans doute au-delà, signifie de manière terriblement claire qu'en matière géopolitique, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et que si vous n'avez pas le choix, ou plus exactement et plus terriblement, si vous considérez que ça vous rapportera davantage que ce que ça ne vous coûtera à la fois en point diplomatique, en point militaire, que sais-je encore, en termes de marché de drogue, pour ce qui concerne la Syrie, etc. Bref, si c'est meilleur pour votre État de passer un accord avec le diable, eh bien vous allez le faire. Et je suis de ceux qui, d'un point de vue citoyen, contestent au dernier degré cette réalité, mais je ne peux pas la nier. Je ne peux pas la nier. Et malheureusement, on voit bien que cela existe. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire, mais si aujourd'hui il existe sur cette planète un criminel particulièrement odieux, c'est bien évidemment Assad. D'ailleurs, tout le monde le sait parmi ceux qui aujourd'hui lui serrent la main. Mais ces gens-là ont besoin, puisqu'il est toujours au pouvoir, Assad, c'est le principe suprême de réalité. Bon, ils ont besoin de l'avoir plus tôt avec eux que contre eux.
Frédéric Ancel, on fait une pause et on continue tout de suite après avec la Chine et puis la France, bien sûr.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Ancel publie « Petite leçon de diplomatie » aux éditions Autrement, « Ruses et stratagèmes des grands de ce monde à l'usage de tous ». Alors, on va tâcher d'en user, par exemple, le comportement de la Chine à l'égard de la Russie dans la guerre en Ukraine. Pas de vote de soutien à l'ONU, pas de livraison d'armes. Le site américain Politico a fait tout un pataquès sous prétexte qu'une entreprise chinoise avait envoyé 1000 fusils d'assaut, des gilets pare-balles et des pièces de drone. Mais enfin, 1000 fusils d'assaut, c'est absolument rien en comparaison de ce que nous, occidentaux, livrons à l'Ukraine. Alors comment vous expliquez ce comportement de la Chine ?
Ah, je l'explique par un pragmatisme sur des temps longs, cher à l'historien Fernand Braudel. Les Chinois sont extraordinairement prudents, quelle que soit d'ailleurs la nature de la dynastie ou en tout cas du pouvoir qui s'exerce à la tête de la Chine. C'est très intéressant. Sur des temps très longs, là je vous parle de pratiquement 24-25 siècles, depuis au moins le stratège chinois Sun Tzu, les Chinois, un, sont très prudents et très pragmatiques en matière de guerre et de paix. Deux, ils ne se lient que très exceptionnellement les mains avec des alliés. Et entre parenthèses, quand ils ont des alliés, c'est pas des losers. Trois, les Chinois jouent systématiquement le balancier en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils refusent d'apparaître comme appartenant à un camp ou à un autre et ils essayent d'affaiblir, pas forcément d'ailleurs via la guerre, pas forcément via les armes au sens traditionnel du terme, les uns et les autres, pour finalement apparaître comme les premiers. Et je pense que le partenariat de la Chine avec la Russie aujourd'hui, qui n'est absolument pas une alliance, alors là aussi, je conteste très fortement le galvaudage de ce terme qu'on emploie à tort et à travers, il n'y a aucune alliance formelle ou informelle entre Pékin et Moscou, j'insiste là-dessus. Donc ce partenariat, effectivement, qui est un partenariat assez léger, il consiste à terme, d'une part, à montrer aux États-Unis que malgré tout, y a un bloc face à eux, ce qui n'est pas évident, mais enfin, en tout cas, on joue cela du côté de Pékin, mais surtout, à plus long terme, ça consiste à vassaliser la Russie. C'est ça la vérité. C'est qu'à la fin des fins, l'économie russe, elle va passer petit à petit sous souveraineté chinoise, un peu à l'africaine, même si le terme est peut-être un petit peu exagéré pour l'instant. Et in fine, je me permets quand même de rappeler à vos auditeurs que parmi les traités inégaux contestés par la Chine, dans le cadre de ce fameux siècle de l'humiliation, qui a été d'ailleurs tout à fait objectivement humiliant pour les Chinois, du fait des Occidentaux et des Russes, eh bien il y a la Russie. Et les Chinois contestent l'établissement de cette frontière en 1860, en Mandchourie septentrionale et en Sibérie orientale, donc là on est vraiment près du Kamtchatka si vous préférez, et les Chinois à terme revendiqueront ce territoire. Donc moi je considère qu'effectivement il n'y a pas d'alliance et que la Chine joue de toute façon son propre jeu, et pour l'instant franchement c'est pas le jeu de l'alliance avec Moscou.
La France maintenant, Emmanuel Macron a maintenu le plus longtemps possible le contact avec Vladimir Poutine. Il s'est rendu récemment en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Il est le premier chef d'État français à s'être arrêté en Mongolie. Et le premier ministre indien, Modi, sera l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet. Que cherche le président de la République, à votre avis ?
Alors, à mon avis, Emmanuel Macron cherche à maintenir la France sur le ring des poids lourds. Alors après, est-ce qu'on en a encore les moyens ? Objectivement, non. Est-ce que c'est un problème crucial ? Non. Parce que je pense personnellement, et c'est mon adage favori en géopolitique, que la démonstration de force vaut force, en tout cas qu'elle peut valoir force. Et j'inverse, si vous voulez, le postulat, ou je le dis différemment, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Si aujourd'hui les grands, et notamment la Chine et les États-Unis, et en particulier la Chine dans l'Indo-Pacifique, continuent à considérer la France, à tort ou à raison, c'est pas le problème, comme une grande puissance. Et si les Chinois continuent à laisser nos rares et modestes frégates passer par leurs eaux territoriales souveraines, en tout cas c'est comme ça que les Chinois voient le détroit de Taïwan, bien évidemment, voilà, mais ça signifie qu'ils acceptent d'une façon ou d'une autre que nous continuions à jouer dans la cour des grands. Mais pour ça, il faut déployer une diplomatie tous azimuts. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment de fonds, si vous avez une démographie qui est relativement limitée, si vous avez moins d'alliances qu'auparavant, si vous ne faites pas beaucoup d'hydrocarbures, voire pas du tout, etc., il ne reste pas grand-chose. J'allais dire qu'il reste le verbe. Et je dois dire que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron ne tranche pas avec ses prédécesseurs. On cite souvent De Gaulle. On pourrait très bien remonter à Richelieu. Et je vous passe Hugues Capet parce que c'est vous. Si vous voulez, l'État français s'est toujours représenté comme devant être, en interne comme à l'extérieur, comme un État puissant. Il s'est toujours représenté comme tel. Et je pense qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, alors en tentant de s'appuyer sur l'Europe puissance, pour le coup, en tentant de mutualiser, bien évidemment, je pense qu'il n'est pas très original, en quelque sorte.
Non, mais le général de Gaulle a réussi, lorsqu'il était président de la République, à faire de la France une véritable puissance mondiale entre les États-Unis et l'URSS, grâce à une indépendance revendiquée, une diplomatie très active et à une force militaire régénérée par l'arme nucléaire. Emmanuel Macron est sur la même ligne, vous avez raison, mais quand il parle d'une Europe de la défense qui serait le pilier européen de l'OTAN, personne ne semble l'écouter. Pourquoi est-ce qu'on l'écoutait De Gaulle et pas ses successeurs ?
Je pense que nous avons de moins en moins de moyens. C'est ce que j'appelle dans mon bouquin une grande puissance pauvre. Et vous mettez des petits tirets partout. Une grande puissance pauvre, c'est un concept en soi. Et nous sommes de plus en plus pauvres, en part absolue, mais également relativement à des États qui, eux, montent en puissance. Je pense évidemment à la Chine, bien évidemment, mais je pense aussi à l'Inde et peut-être à quelques autres pays de ce type-là. Et par conséquent, vous ne pouvez pas vous prévaloir du même ring perpétuellement en n'alignant plus les mêmes billes, si vous voulez, ou les mêmes cartes. Donc, il faut redoubler d'ingéniosité en matière diplomatique, mais aussi, il faut, à mon avis, aller vers des alliés, vers d'autres alliés, et des alliés qui vous permettront de mutualiser les ressources, les forces sur un certain nombre de théâtres d'opération. J'ajoute un dernier point, c'est que De Gaulle, effectivement, vous l'avez bien dit, jouait l'indépendance. Mais attention, entre deux pôles qui, à l'époque, étaient radicalement opposés, c'était réellement une guerre froide. Et puis, à l'URSS, c'était une vraie, très grande puissance, ce que n'est plus aujourd'hui la Russie. Enfin, dernier point, dernière divergence, à mon avis, enfin, en tout cas, je mettrai une nuance. En 62, la crise des missiles de Cuba, ah, ça a été vidu, hein. De Gaulle s'est rangé, comme de bien entendu, immédiatement dans le giron, ou sous le giron, si vous préférez, américain et occidental. Donc l'indépendance de la France sous De Gaulle, oui, mais avec quand même un mais, et ce mais, il ne nous a jamais quittés.
Merci Frédéric Ancel.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Petite leçon de diplomatie, c'est paru aux éditions Autrement. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après avec Loïc Bollache. On continue de parler de la guerre, mais la guerre faite par les animaux.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Loïc Bollache.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'écologie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et vous publiez « Quand les animaux font la guerre » chez Humaine Science, dans la collection dirigée par Étienne Klein. Pendant longtemps, on a cru que les animaux étaient incapables de faire une chose pareille, que c'était réservé aux êtres humains. La première à avoir été le témoin d'une guerre entre animaux, c'est la célèbre éthologue Jane Goodall. Hein, en 1974, en Tanzanie, c'était la fameuse guerre des chimpanzés de Gombe qui a duré 4 ans.
Oui, c'est la première preuve et la première évidence observée par des scientifiques de conflits, d'affrontements entre groupes animaux sans vocation de prédation, uniquement pour des guerres de territoire, pour acquérir un territoire, avec des comportements spécifiques, des comportements guerriers qui ont été décrits à ce moment-là.
C'était une guerre de territoire, en effet, assez similaire à ce qui se passe entre les hommes. Et il y a d'autres cas, hein. On les a découverts depuis, vous le racontez, entre les suricates, par exemple, qui se livrent à de véritables batailles rangées.
Alors, les suricates sont des petits mammifères sociaux africains qui doivent défendre leur territoire. Ils vivent sur des territoires avec des troupes assez denses, collées les unes contre les autres. Et il y a presque des affrontements quotidiens entre les groupes de suricates avec des comportements spécifiques pour prévenir la guerre, pour prévenir que des combats vont éclater. Il y a la danse de la guerre qui a été très bien décrite, où les suricates se regroupent et ont des mimiques pour impressionner la troupe voisine.
Tout ça, ça a dû être des surprises considérables pour les scientifiques.
Alors, ça a été des surprises et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étude des groupes sociaux d'animaux, de mammifères, d'oiseaux ou d'autres, est malgré tout assez récente. Donc on a longtemps considéré la nature comme un milieu sauvage avec beaucoup d'agressivité, mais pas d'agressivité organisée. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionnent les groupes lorsqu'ils se font la guerre, puisque ce sont des groupes avec des conflits, mais des conflits toujours entre individus, entre plusieurs groupes, avec des initiateurs de la guerre, avec des personnes qui vont essayer de limiter les conflits. Et c'est ce que l'on observe chez beaucoup d'espèces.
Concernant les mangoustes, par exemple, vous dites que ce sont les femelles qui sont souvent à l'origine des conflits.
Oui, alors ça c'est une surprise parce que c'est quelque chose qu'on a observé récemment. Chez les mangoustes, ce sont les femelles qui initient les conflits. Ce sont elles qui sont un peu les belliqueuses et qui vont entraîner le groupe dans ce type de combat. Alors tous les mâles ne souhaitent pas faire la guerre d'ailleurs, des mâles rechignent un peu. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est comprendre pourquoi ces femelles initiaient ces conflits. Est-ce qu'elles avaient un avantage autre? Et on a découvert récemment que dans les mêlées, au moment de ces conflits, certaines femelles dominantes en profitait pour se reproduire avec les mâles dominants de la troupe d'en face. donc une sorte d'intérêt secondaire pour les femelles à initier des combats.
Alors, dans certaines espèces, vous dites qu'il y a de véritables armées hein, composées de soldats de métier chez les abeilles, chez les fourmis. Il y a la reine, il y a les ouvrières, on en parle souvent, mais il y a aussi celles qui sont là uniquement pour préparer la guerre.
Voilà, là on arrive à un niveau, ce qu'on appelle de socialité en éthologie, qui est le plus poussé, avec des castes qui existent chez les insectes sociaux. Il y a naturellement les reproducteurs qui ne font que se reproduire et qui souvent ne peuvent pas se nourrir seuls. Il y a les ouvrières qui sont là pour entretenir le groupe, la fourmilière dans le cas des fourmis. Et puis les soldats, alors qu'on n'appelle pas toujours soldats, maintenant on appelle ça plutôt les majors parce qu'ils ont une corpulence plus imposante, ils ont des grosses mandibules ou d'autres formes d'armes, et eux dont la vocation est uniquement de défendre le groupe et qui sont souvent aussi incapables de se nourrir. Donc c'est un trio qui crée un équilibre dans ces groupes animaux et ces soldats ou ces majors sont des véritables armes vivantes dont la fonction principale est de défendre le groupe.
Oui, ce sont des armes vivantes. Vous parlez des fourmis kamikazes, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment elles opèrent ?
Alors, dans la description des fourmis kamikazes, il y a plusieurs modalités. Il y a des fourmis kamikazes qui sont des véritables bombes vivantes, parce qu'elles ont un abdomen qui est gonflé avec des produits comme de l'acide formique ou des poisons de contact, donc, lors de la mêlée, lors des conflits avec les assaillants, vont éclater à leur approche et vont asperger les assaillants de ces produits. Il y a d'autres fourmis kamikazes dans des fourmilières qui vivent dans des canopées assez hautes dans les arbres, qui vont se jeter dans le vide avec les assaillants. Donc il y a différentes formes de soldats dont la fonction pour défendre le groupe peut aller jusqu'à se suicider en même temps que défendre la troupe.
Mais quand vous parlez de fourmis kamikazes qui se font exploser, alors évidemment ça nous rappelle de tristes souvenirs, je parle entre êtres humains cette fois-ci, mais comment se font-elles exploser ? Elles n'ont pas de ceinture d'explosifs.
Ah ben, non, elles n'ont pas de ceinture d'explosifs, mais en fait c'est un processus physiologique. Au moment des combats liés au stress qui fait que l'individu va éclater et c'est comme ça qu'elle est entre guillemets programmée pour défendre le groupe. Alors elle n'explose pas toujours au premier combat hein. C'est souvent des fourmis qui dans la mêlée ont aussi des mandibules, donc essayent de découper l'assaillant en deux et ainsi de suite, mais lorsqu'elle est elle-même en train d'être attaquée, eh bien la dernière solution au lieu de mourir sans rien faire, c'est de mourir en éclatant et en aspergeant l'ennemi de ces substances.
Loïc Bollache, il y a d'autres guerres dont on va parler, mais on laisse passer d'abord une pause.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Loïc Bollache, il est professeur d'écologie, c'est l'auteur de « Quand les animaux font la guerre » chez Humaine Science. Vous parlez dans ce livre longuement des guerres de succession qui dégénèrent en guerre civile, chez les fourmis par exemple.
Oui, alors c'est dans les différentes formes de guerre, on a naturellement des guerres assez classiques et puis on a ces guerres de succession que l'on connaît dramatiquement aussi chez l'humain et que l'on observe chez les animaux, donc chez les fourmis. Lorsque, par exemple, des nouvelles fourmilières vont être créées, donc on a ces fameux essaimages, hein, quand on est au printemps, on voit ce qu'on appelle des fourmis volantes, en fait, on voit des futures reines s'envoler, généralement poursuivies par une horde de mâles qui essaient de se reproduire avec. Et une fois que ces jeunes reines ont été fécondées, elles vont chercher un endroit pour fonder une fourmilière. Et elles peuvent décider des fois de s'associer, ne pas le faire seules, mais faire le travail à plusieurs reines. Alors elles vont s'associer à 5, 6 ou une dizaine de reines ensemble. Elles vont commencer à construire un couvain. Et lorsque les premières ouvrières vont naître, eh bien cette paix sociale entre les différentes reines va être rompue. Et c'est une guerre acharnée entre ouvrières, entre reines, entre ouvrières et reines. Et tout le monde en fait va combattre jusque au stade final, lorsqu'il ne reste qu'une seule reine et qui va gagner ce combat et qui va naturellement pouvoir poursuivre son travail et fonder cette fourmilière. C'est une sorte de guerre du trône que l'on connaît bien.
Et chez les chimpanzés, c'est pareil ?
Alors chez les chimpanzés, c'est un peu différent parce que les guerres de succession sont beaucoup plus proches de ce que l'on connaît chez l'humain. Naturellement, ce sont des primates, ce sont nos très proches cousins, donc on partage beaucoup de choses. Là, ce sont plutôt des phénomènes d'alliance qui existent entre le mâle dominant ce qu'on appelle le mâle alpha, et puis les mâles subordonnés. Donc généralement, chez les chimpanzés, comme chez beaucoup de primates, une place intéressante, peut-être même la plus intéressante, c'est pas la place du chef, c'est la place de second, celui qui est juste au-dessous, parce que c'est lui qui va créer des alliances, alors soit avec le mâle dominant, et puis ce duo maintient le groupe sous sa coupe, mais lorsque le mâle numéro 2 décide de s'allier au mâle numéro 3, eh bien, à tous les deux, ils vont pouvoir en fait entraîner la chute du mâle dominant, et c'est le mâle numéro 3 qui va devenir premier. Le mâle numéro 2 est toujours sûr de rester second, mais le mâle premier peut voir son trône être accaparé par le mâle numéro 3.
Oui, effectivement, le numéro 2 lui restera, quoi qu'il arrive, toujours numéro 2, finalement.
C'est ça, le numéro 2, son avantage pour lui, c'est que quoi qu'il se passe, il sera toujours sûr d'être numéro 2. Le numéro 3 peut devenir numéro 1, le numéro 1 peut descendre dans la hiérarchie, voire des fois être tué. On a vu des numéro 1 lors de ces combats mourir. Mais l'avantage, c'est souvent le numéro 2, et ça demande quand même une connaissance assez fine et des processus d'alliance qui permettent d'arriver à ses fins.
Chez les hyènes, ça se traduit comment les guerres de succession ?
Alors les hyènes, c'est une particularité animale parce que souvent, quand on parle par exemple des chimpanzés, on parle des mâles qui sont des mâles dominants. Chez les hyènes, il faut imaginer que ce sont des dynasties femelles. Ce sont les femelles qui dominent les groupes, les mâles sont plus petits que les femelles. Et on a chez les hyènes des dynasties, des lignées maternelles qui sont des lignées dominantes. Alors chez beaucoup d'espèces animales, c'est généralement les individus les plus forts qui sont les plus dominants. Chez les hyènes, c'est différent. Il faut être bien né. C'est que si on est né dans la bonne lignée, on a plus de chances d'être dominant un jour que si on est né dans la mauvaise famille. Et lorsqu'on a une lignée dominante qui est très puissante, elle peut exercer une pression sur les lignées inférieures, les empêcher de se reproduire, les empêcher d'avoir accès à de la nourriture. Et on peut voir des lignées comme ceci totalement disparaître parce qu'elles n'ont plus accès aux ressources.
Et les crevettes pistolet, comment se font-elles la guerre, elles ?
Alors les crevettes pistolet sont des petits crustacés qui ont été découverts, qui vivent dans des éponges, des crustacés sociaux. C'est une organisation sociale qui est un peu moins élaborée que celle naturellement des insectes comme les fourmis, mais c'est une organisation déjà assez complexe. Et les chercheurs ont pu observer que, un peu comme chez les fourmis, lorsqu'une reine disparaît, les ouvrières se retrouvent en fait toutes seules, elles n'ont plus de reine. Et les ouvrières vont se faire la guerre entre elles, vont combattre jusqu'à ce qu'une devienne la plus forte, la plus dominante, et va devenir la future reine. Alors ce qui est intéressant chez les crevettes pistolet, c'est qu'il n'y a pas de mortalité, comme on peut voir par exemple chez les fourmis, comme on a décrit chez les fourmis. Chez les crevettes pistolet, la plupart du temps, ce sont des combats qui permettent d'établir une hiérarchie entre les ouvrières, et celle qui va gagner, en fait, et celle qui va avoir la position supérieure, va devenir la future reine.
Loïc Belache, comment s'arrêtent les guerres entre les animaux ? Est-ce qu'ils finissent par faire la paix ?
Alors déjà, la première chose, c'est qu'ils essayent d'éviter de faire la guerre. Une caractéristique aussi du monde animal, c'est que la guerre en fait n'existe que lorsque l'on décide de se défendre. Il y a un assaillant et puis il y a un groupe qui se défend. Mais on a plein de mécanismes pour éviter de faire la guerre, pour éviter d'avoir des conflits. Et si par malheur il y a des conflits, alors il y a plusieurs situations. Il y a une situation qui est généralement dramatique, c'est lorsque un groupe est beaucoup plus faible qu'un autre et va être totalement exterminé. On l'a observé presque chez des chimpanzés, où il y a des groupes qui dominent énormément et qui vont faire éteindre totalement un groupe, chez des oiseaux. Et puis il y a aussi des mécanismes à l'intérieur des groupes cette fois-ci, lorsqu'on en parle de conflits en interne, comme des guerres de succession ou des guerres civiles, il y a des mécanismes de consolation, des mécanismes de réconciliation pour éviter que ces combats, que ces violences s'enveniment et puis arrivent à quelque chose de dramatique.
Néanmoins, les animaux sont comme nous. Hein. Quand on lit votre livre, on se dit, au fond, ils ne cessent de préparer la guerre, y compris pour ne pas avoir à la faire.
C'est ça, en fait. Les animaux vivent dans un stress permanent. C'est pas... Parce que quand on parle de guerre, on parle de guerre physique, on parle de guerre réelle lorsqu'il y a des conflits. Mais si on reprend la définition et les travaux du philosophe anglais Hobbes sur la guerre, on parle en fait d'un état de guerre, c'est-à-dire ce stress permanent où on est obligé de préparer la guerre. Donc par exemple, les fourmis ont des armées, elles préparent en permanence, elles ont des soldats, et elles vont augmenter la proportion de soldats dans la fourmilière si le risque de faire la guerre augmente. Un peu comme nous on a une armée de métier, avec 200 000, 300 000 militaires, mais si demain on a un conflit qui apparaît, eh bien on va augmenter ce nombre de militaires, on va l'augmenter, on va le doubler, le tripler, on va avoir plus d'armes, eh bien les insectes font la même chose, ils augmentent le nombre de soldats si jamais il y a besoin de, de faire la guerre ou si le risque apparaît.
Merci Loïc Bollage, votre livre est passionnant. Il s'intitule « Quand les animaux font la guerre », il est paru chez Humaine Science.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.